Avant de démarrer l'émission, je voudrais remercier la Fondation Charpak et l'Esprit des Sciences qui soutient ce projet. Je vous en parlerai plus longuement dans le courant de l'épisode.
Science et conscience, une émission proposée par Stéphane Manet sur Cause Commune 93.1 FM.
Bienvenue dans Science et Conscience. Aujourd'hui, nous parlons de l'esprit scientifique. Comment rêver les ondes au point d'imaginer remonter le temps? Jusqu'où l'abstraction de l'esprit scientifique va-t-elle pour envisager de domestiquer l'onde, l'obliger à faire ce que l'on veut, lui faire revivre sa vie passée? C'est la question que je vais poser à Mathias Fink. Bonjour Mathias.
Bonjour.
Alors Mathias, vous êtes chercheur à l'ESPCI et membre de l'Académie des sciences.
Tout à fait.
Et votre sujet, c'est les ondes. Alors plus spécifiquement, c'est les ondes et leur application dans le domaine biomédical.
Oui, c'est les ondes, leur application en médecine et aussi dans le domaine des communications d'ailleurs, parce que c'est aussi un domaine où les ondes jouent un rôle fondamental.
Donc c'est les ondes en général qui vous intéressent.
Oui. Bah, initialement, c'était comprendre la propagation des ondes dans des milieux compliqués. Et les ondes, en fait, ça peut servir au moins à trois choses. D'une part, ça peut servir à communiquer. Quand je vous parle, j'envoie du son et j'envoie un message. D'autre part, les ondes, ça peut servir à faire des images. La lumière, par exemple, c'est une onde. Et en regardant comment la lumière interagit avec votre corps, je peux faire une image de vous. Donc, les ondes peuvent servir à faire des images. Et les ondes, si on les concentre très fort en un endroit, ça peut servir à envoyer de l'énergie à distance à un endroit et ça peut servir à brûler, par exemple dans le corps humain, des tumeurs à distance sans avoir à ouvrir un patient. Donc les ondes, ça sert à beaucoup de choses et je m'intéresse un peu aux différentes applications des ondes.
Donc les trois à la fois.
Les trois domaines, le domaine de l'imagerie, le domaine de la communication et le domaine de la destruction à distance. Sachant que ce domaine, l'aspect qui m'intéresse, c'est la destruction à distance de tumeurs ou de calculs rénaux ou de calcifications dans le corps humain. Les ondes peuvent aussi servir à détruire à distance des projectiles. Et aujourd'hui, dans la guerre anti-missiles et anti-avions, on commence à penser utiliser des lasers très puissants pour... Mais moi, c'est l'aspect médical qui m'intéresse.
Oui, bien sûr. Donc ça veut dire que dans ces trois domaines, on va retrouver des applications variées. Par exemple, dans le domaine de l'imagerie, on peut aussi bien parler d'échographes en temps réel que d'imagerie d'épaves sous-marines, par exemple. Et dans le domaine de la destruction, ça a une application dans le médical et ça a aussi une application et un intérêt dans le domaine militaire, par exemple. Donc à chaque fois, on est sur des applications qui sont très larges.
On est sur des applications très larges et on est sur des recherches duales, je dirais. Le mot dual voulant dire qu'elles peuvent servir pour des applications civiles, mais très souvent elles servent aussi pour des applications militaires.
Militaires. Alors, puisqu'on parle d'applications, justement, ça va permettre de vous situer dans vos recherches, puisque vous vous présentez comme un professeur inventeur. Et vous avez l'occasion, vous êtes connu pour ça, vous avez permis la création d'entreprises sur la base de vos brevets, mais vous par contre, vous n'êtes pas un chercheur entrepreneur, donc vous produisez de la connaissance et vous incitez à son application.
Oui, en fait, pendant longtemps, j'ai fait de la physique fondamentale et donc je cherchais plutôt à comprendre des phénomènes de propagation bizarres et des choses comme ça. Et puis le jour où j'ai vu que avec ces idées, on pouvait contrôler les ondes, je me suis dit, est-ce que ça peut servir à quelque chose? Et finalement, étant à l'école physique-chimie à Paris, qui est une école d'ailleurs où Georges Charpak a été professeur associé et tout. C'est une école où on fait à la fois de la très belle science fondamentale, et il y a un esprit dans cette école qui fait que quand on voit que ce qu'on fait peut servir, on décide d'en faire un produit ou un appareil. Et d'ailleurs, le premier qui a été comme ça, c'était Langevin. Paul Langevin était un très grand scientifique qui était très proche d'Einstein et qui a joué un rôle très important dans la théorie de la relativité. Et quand la guerre est arrivée, la Première Guerre mondiale, Langevin s'est rendu compte que les cristaux piézoélectriques qui avaient été découverts à l'école physique-chimie par Pierre Curie pouvaient servir pour faire des émetteurs d'ultrasons. Et il a eu l'idée de faire le premier sonar. Et il a développé cette technologie. Il a participé à la création d'une société, ce qui était très très rare dans le milieu universitaire français. Mais donc ça, c'était déjà en 1915. Et dans cette école, il y a toujours cet esprit. Et donc, moi, je participe un peu comme pas mal de chercheurs de l'école. On fait de la belle physique, et quand on voit qu'elle peut servir, on pousse un produit. Et aujourd'hui, grâce à la loi sur l'innovation, les chercheurs ou les enseignants-chercheurs comme je suis ont le droit de déposer des brevets et de participer à la création de start-up à partir de ces idées. Et moi, j'ai poussé pas mal d'idées, j'ai déposé beaucoup de brevets, 75 en gros, et on a créé 7 start-up à partir de notre labo.
À 7 ans.
Ouais, 7. Et c'est
j'en étais resté à 6, donc il m'en manquait une.
Ouais, la 7e est récente.
Ah, c'est pour ça.
J'en dirai un mot si vous voulez tout à l'heure. Et ces 7 start-up ont plus de 500 employés. Donc on a créé, à partir de belles recherches, pas seulement des idées, mais des produits et surtout des emplois. Et beaucoup des jeunes qui ont fait des thèses avec moi sont des ingénieurs dans ces start-up. Bon, les start-up les plus successful ont été rachetées malheureusement par des sociétés américaines ou chinoises, ce qui est malheureusement un grand malheur de la France à ce niveau-là. Mais au moins, on a créé des emplois et ces start-up sont toujours basées en France majoritairement.
Mmh. Alors, l'idée, c'est de contrôler les ondes. La première idée qui vous est venue et que vous mentionnez tout à l'heure, comment vient cette idée de contrôler les ondes? Parce que si je me balade sur la plage et que je marche dans l'eau, il y a des ondes, il y a des vagues. À quel moment il pourrait me venir à l'idée de me dire, tiens, bah, ces vagues, je peux les prendre, je peux les manipuler, les déplacer, les faire aller à l'envers peut-être.
Ouais.
Comment vient cette idée-là?
Bon, alors, l'idée m'est venue parce que quand j'ai commencé à m'intéresser aux ultrasons, qu'on envoie dans le corps humain pour faire de l'échographie, j'ai bien compris que la propagation des ultrasons dans le corps humain était beaucoup plus compliquée qu'une bête onde qui avance en ligne droite. Il y a plein de petites structures dans le corps humain qui font que les ondes zigzagent, se déforment, s'abîment. C'est comme s'il y avait des tas de mirages qui déforment un front d'onde. Et en fait, le corps humain n'est que des tas de petits mirages. Et donc, il y avait des méthodes pour faire de l'imagerie qu'on appelait de l'échographie classique. Et j'ai essayé de revisiter un peu ces méthodes en me disant, qu'est-ce que c'est que faire une image d'un milieu compliqué? C'est envoyer des ondes, écouter tout ce qui revient du milieu, donc c'est ce qu'on appelle les échos. Et si on veut retrouver le milieu qui a donné naissance à toutes ces ondes, en fait, l'idée, c'est de faire revivre l'onde qu'on reçoit avec nos capteurs, lui faire revivre sa vie passée, c'est-à-dire la faire revenir en marche arrière dans le corps humain. Et on peut voir le corps humain tel qu'il est, si on a obligé une onde à revivre sa vie passée. Et c'était très théorique hein, comme idée. Et puis cette idée, comment faire revivre à une onde sa vie passée, c'est relié, le fait que ce soit possible, c'est lié à une propriété de symétrie très belle de l'équation des ondes, qui s'appelle la symétrie par renversement du temps. Et les gens, bon, savaient plus ou moins que cette propriété existait, mais ils en faisaient rien, ils en faisaient pas un appareil. Et donc, je me suis dit, est-ce qu'on peut faire une expérience qui va montrer qu'une onde qui part d'une source et qui va être très abîmée par un milieu épouvantable, est-ce que, en la mettant en présence de l'appareil auquel j'ai pensé, est-ce que cette onde, on ne peut pas la voir repartir en marche arrière et retraverser tout le milieu épouvantable et revenir exactement à son origine, comme si on voyait le film de l'onde, mais qui repassait à l'envers. Et alors, on sait très bien que si vous faites tomber des objets dans de l'eau, on voit des vagues à la surface de l'eau. Si vous filmez toutes ces vagues qui partent d'un objet, si vous prenez le film et le repassez à l'envers, ben on voit les vagues qui vont revenir vers l'objet et le caillou va ressauter en l'air. Mais c'est qu'un film. Et on a trouvé une façon de le faire, mais physiquement. Et donc, pour ça, il faut utiliser beaucoup de micros, beaucoup de haut-parleurs et des mémoires d'ordinateurs astucieuses. Et on peut physiquement faire ça. Et d'ailleurs, on a quelques très beaux films qu'on montre. Mais là, bon, comme on est en audio, je ne peux pas montrer ces films, où on est dans une grande piscine, on fait tomber un objet dans la piscine, on voit une onde qui part et qui se met à cogner tous les murs de la piscine, et puis brusquement, on voit que les bords de la piscine se mettent à vibrer d'une façon étrange, et on voit exactement une onde qui revient en marche arrière et vers l'endroit où le caillou est tombé, et on voit que la piscine se soulève à l'endroit du caillou, et on a la mémoire de toute l'histoire de l'onde qui se refait devant vous. Et quand on sait faire ça, et donc c'est basé sur une belle idée de physique, et ça n'a été possible de le faire que quand l'informatique est devenue assez puissante pour que les mémoires électroniques en particulier deviennent très rapides, qu'on puisse stocker des signaux sur une mémoire et les relire très très vite, en mélangeant une belle idée de physique et ce que la technologie des circuits électroniques permet de faire, on peut faire des appareils qui font revivre à une onde sa vie passée. Et donc j'ai commencé à faire ça avec des ultrasons, et ma première idée c'était de faire un appareil pour casser les calculs dans le rein, bien mieux que les appareils conventionnels, vous savez qu'ils s'appellent des lithotripteurs, on envoie une onde de choc dans le rein, et puis quand l'onde cogne le calcul, le calcul rénal se casse en petits morceaux, mais c'est difficile de viser le calcul. Et quand à l'hôpital on utilise ces appareils, on rate souvent le calcul quand on tire. Et moi, mon idée, c'était d'envoyer une première onde ultrasonore qui cogne un calcul. Un calcul, c'est un objet très dur qui envoie un écho très fort. Et quand l'écho du calcul revient, il est reçu par un miroir à retournement temporel qui l'oblige à revivre sa vie passée, et donc l'onde ne revient que sur le calcul. Sauf que le miroir à retournement temporel, qui a traqué le calcul, quand il renvoie une onde, il a aussi amplifié l'écho d'un facteur 1 million. Et donc, il renvoie quelque chose qui ne va que sur le calcul. Et 30 fois par seconde, l'onde, tac, 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 tape sur le calcul, mais l'énergie ne va pas se disperser dans les tissus, ne va pas faire des hématomes, ne va que sur le calcul. Et donc, on a démarré en faisant un appareil tout de suite sur une application médicale, et puis on s'est très vite rendu compte que faire revivre à une onde sa vie passée, ça pouvait servir non pas à faire de la destruction, mais aussi à faire une image. Et donc, en envoyant une onde très large à l'intérieur du corps, en captant tout, et en faisant le retournement temporel à l'intérieur d'un ordinateur, on revoit le milieu. Et c'est une façon différente de faire des images que l'échographie conventionnelle. Et on a fait le premier échographe qui pouvait faire 10 000 images par seconde de l'intérieur du corps humain. Et même si le corps humain est compliqué, a des structures compliquées, l'opération de retournement temporel s'en fiche et vous remontre exactement tous les endroits dans le corps d'où sont nés les échos. Et donc on a développé tout un aspect imagerie, dont on a fait une superbe compagnie qui s'appelle Supersonic Imagine, qui fait un échographe qui est le premier échographe qui voit à l'intérieur du corps plusieurs milliers de fois par seconde. Et quand on voit à l'intérieur du corps plusieurs milliers de fois par seconde, on voit toutes les vibrations qui existent à l'intérieur du corps. Et ces vibrations, sont dues à des ondes mécaniques qu'on appelle des ondes de cisaillement. Et en filmant toutes ces vibrations, on peut faire une image très nouvelle du corps qui montre la valeur de la dureté du corps humain en chaque point. Et on a poussé ça. Donc ça, c'est un aspect application du retournement temporel, soit pour détruire des objets, soit pour voir à l'intérieur des objets. Et puis après, on s'est dit, mais on peut faire aussi du retournement temporel d'ondes électromagnétiques plutôt que ultrasonores. Et là, on s'est dit, mais c'est intéressant pour les communications. Quand vous envoyez un signal avec une antenne dans la ville, ce signal cogne des tas de murs et a une vie très chahutée.
C'est précisément ce que nous faisons, par ailleurs.
Et ça, c'est ce qu'on fait tout le temps. Les ondes électromagnétiques rebondissent sur à l'intérieur des pièces, à l'intérieur des rues, et elles ne sont pas maîtrisées. Et on s'est dit, on pourrait peut-être inventer une méthode qui obligerait une onde à faire ce qu'on veut. Et pour ça, il suffit que la personne qui a un téléphone portable envoie un petit signal. Ce petit signal se balade dans la ville, cogne les murs, rebondit et tout. Et si quelque part dans la ville, il y a un petit miroir à retournement temporel, toute l'onde va revenir en marche arrière exactement vers cet individu. Et on pourra envoyer de l'information que seule cette personne va recevoir. Et donc ça fait quelque chose de très économique au point de vue énergie. Au lieu d'envoyer l'énergie partout, un miroir à retournement temporel ne l'envoie que vers les gens qui se sont signalés en envoyant un petit signal de référence. Et là, à l'époque, on s'est lancé, on a même créé une start-up qui s'est appelée Time Reversal Communication, communication par retournement temporel, mais on l'a créée trop tôt. On a eu 30 personnes dans la start-up, mais la technologie coûtait trop cher. Et donc, on n'a pas pu bien la pousser. Et après, cette idée d'apprendre à focaliser les ondes sur les téléphones de chacun a été reprise dans ce qui s'appelle la 5G aujourd'hui. Dans la 5G, on utilise les principes du retournement temporel ou ce qu'on appelle de la conjugaison de phase pour envoyer sur certains téléphones beaucoup plus de signal que dans le reste de l'espace, parce que le grand gâchis de la communication, des télécommunications conventionnelles, c'est que les antennes de base qui envoient de l'énergie l'envoient dans toute la ville, alors que le message n'est destiné qu'à 3 personnes ou 5 personnes. Et donc ce serait beaucoup mieux de cibler ces personnes. Eh bien, par le principe du retournement temporel, on peut le faire. Quand nous, on a essayé de le faire, c'était trop tôt, c'était en 2009, 2010. Mais maintenant, dans la 5G, ces idées sont reprises. Et on développe à partir de ça maintenant des idées nouvelles qu'on appelle des surfaces intelligentes, qu'on peut mettre dans une pièce ou dans une rue, qui permettrait à un système d'émission d'ondes que ces ondes cognant ces surfaces magiques, ces ondes ne se rabattent que vers les téléphones qui existent dans l'environnement. Et normalement, le but, c'est de traquer ces téléphones et de n'envoyer une énergie que sur ces téléphones. Lorsque ce sera bien au point, on gagnera énormément au niveau écologique. On pourra diviser par 10 ou par 100 l'énergie émise par toutes les stations de base, qui sont ces épouvantables relais que vous voyez au-dessus des immeubles. Ils émettent beaucoup d'énergie et le gros de l'énergie est perdu partout. Si cette énergie, par la magie du contrôle des ondes, n'allait que vers les téléphones, on y gagnerait beaucoup.
Ouais. C'est un petit peu comme si j'envoyais une infinité de bouteilles à la mer dans tous les sens et toutes les directions, en espérant qu'elles soient reprises. Là, le but, c'est d'envoyer un message directement au destinataire une fois qu'on l'a repéré.
Voilà, alors, une fois qu'on a appris par cette méthode du retournement temporel à envoyer un message qu'au destinataire qu'on a, on peut apprendre à contrôler les ondes, parce que on peut imaginer aussi d'autres choses. Par exemple, pour les vagues à la surface de la mer, les vagues à la surface de la mer, quand vous les voyez, elles sont agitées. Bon, il y a des vagues très régulières comme la houle, mais il y a aussi des tas de petites structures sur ces vagues. Il y a beaucoup d'énergie dans ces vagues. Et si on savait mettre une surface intelligente devant ces vagues, on pourrait faire, par exemple, que toutes les vagues qui viennent la cogner, après n'est qu'une finalité d'aller se focaliser à un endroit. Alors bon, il vaut mieux pas être à cet endroit, mais si à cet endroit vous avez mis un appareil qui va convertir l'énergie mécanique en électricité, vous allez avoir un rendement très intéressant au niveau de la transformation de l'énergie des vagues en électricité, parce que vous allez ne pas laisser que les vagues avoir leur mouvement propre, mais en interagissant avec une surface intelligente, vous allez faire que ces vagues vont aller se refocaliser vers certains endroits où vous avez votre station de conversion d'énergie. Et il y a donc contrôler les ondes, ou les vagues, c'est des ondes, hein, mais il y a plein de types d'ondes. Ça a plein d'applications, y compris pour le domaine de l'énergie, ce qui s'appelle energy harvesting. Comment, là, ce que je décris là, c'est convertir de l'énergie qui vient des vagues en une énergie cohérente qui va se focaliser à un endroit. C'est aussi quelque chose qui est intéressant pour recharger votre téléphone. Sauf que votre téléphone, c'est pas des vagues qu'il utilise, mais s'il y a les ondes électromagnétiques qu'il y a dans une pièce, une partie de ces ondes peut être rabattue vers votre téléphone pour le charger. Donc, ces idées sur le contrôle des ondes, en tout cas, ont énormément d'applications potentielles.
Ça fait énormément d'idées qu'on vient d'aborder, énormément d'inventions existantes ou potentielles. Ce que je vous propose, c'est d'écouter Poincaré et de voir comment, il y a un siècle de cela, les idées de Poincaré lui venaient.
Depuis 15 jours, je m'efforçais de démontrer qu'il pouvait exister aucune fonction analogue à ce que j'ai appelé depuis les fonctions fouchiennes. J'étais alors fort ignorant. Tous les jours, je m'asseyais à ma table de travail, j'y passais une heure ou deux, et j'essayais un grand nombre de combinaisons et j'arrivais à aucun résultat. Un soir, je pris du café noir, contrairement à mon habitude, et je pus m'endormir. Mais les idées surgissaient en foule, je les sentais comme se heurter jusqu'à ce que deux d'entre elles s'accrochassent, pour ainsi dire, pour former une combinaison stable. Le matin, j'avais établi l'existence d'une classe de fonctions fouchiennes, celle qui dérive de la série hypergéométrique, et j'eus plus qu'à rédiger les résultats, ce qui me prit que quelques heures. Je voulus ensuite représenter ces fonctions par le quotient de deux séries. Et cette idée fut parfaitement consciente et réfléchie, hein. L'analogie avec les fonctions elliptiques me guidait. Je me demandais quelles devaient être les propriétés de ces séries si elles existaient. Mais j'arrivais sans difficulté à former les séries que j'ai appelées tétrafouchiennes. À ce moment, je quittais Caen, que j'habitais alors, pour prendre part à une course géologique entreprise par l'école des mines. Les péripéties du voyage me firent oublier mes travaux mathématiques. Arrivé à Coutances, nous montâmes dans un omnibus pour je ne sais quelle promenade, et au moment où je mettais le pied sur le marchepied, l'idée me vint, sans que rien de mes pensées antérieures parût m'y avoir préparé, que les transformations dont j'avais fait usage pour définir les fonctions fouchiennes sont identiques à celles de la géométrie non euclidienne. Je fis pas la vérification, j'en aurais pas eu le temps, puisque, à peine assis dans l'omnibus, je repris la conversation commencée. Mais j'eus tout de suite une entière certitude. De retour à Caen, je vérifiais le résultat à tête reposée pour l'acquis de ma conscience.
Cause commune, la voie des communs.
Benjamin Penamaria, donc le chapitre 3 de Science et Méthode, c'est une conférence de Poincaré qu'on vient d'écouter, que Poincaré donnait à des psychologues pour répondre à une question qui se posait alors, d'où viennent les idées. Et Benjamin Penamaria, pour ceux qui auront reconnu la voix, c'est normal, c'est la voix française de Jon Snow, par exemple, dans Game of Thrones, et c'est la voix de Finn, le personnage dans Star Wars. Bon, Benjamin est également comédien. Il propose une représentation de Laurence d'Arabie au Théâtre 13, qui vaut la peine d'être vue. Donc, courez le voir et apportez du soutien aux comédiens en période post-Covid. Voilà. Comment vient l'idée de manipuler les ondes comme si c'était des objets, presque des êtres vivants quelque part, comme s'il y avait une biologie des ondes? D'où vient cette idée-là?
Bon, Vous savez qu'en physique, il y a d'une part les ondes et d'autre part les particules. Et il y a cette dualité entre des particules et les ondes qui les accompagnent. La mécanique quantique vous parle de cette dualité onde-particule.
Oui, alors d'ailleurs, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a les ondes d'un côté et les particules de l'autre, ou est-ce qu'on n'est pas tout à fait sûr de savoir si c'est une onde, une particule ou les deux en même temps?
Alors, il y a des ondes qui ne sont que des ondes. Les vagues à la surface de l'eau, bon, c'est un ensemble de particules qui ont des mouvements qui ressemblent à des ondes. Et il y a les ondes électromagnétiques qui peuvent se propager dans le vide sans qu'il y ait de particules. Mais aussi, lorsqu'on regarde ça à un niveau quantique, on peut associer souvent à ces ondes des particules. Par exemple, la lumière peut être considérée soit comme une onde, soit comme des particules qu'on appelle les photons.
Les photons.
Moi, je m'intéressais donc beaucoup aux ondes ultrasonores qui sont comme des ondes mécaniques qui font vibrer les tissus et qui se propagent dans les tissus à des fréquences élevées. Et la façon dont je me suis intéressé au contrôle des ondes, c'est venu beaucoup à travers des rêves. Je voyais bien que les ondes se promenant dans le corps humain rencontrer un milieu qui était un petit peu aléatoire. Les structures dedans, des cellules étaient placées avec des positionnements très aléatoires. Et dans un de mes rêves, où j'essayais de comprendre, je m'étais dit, qu'est-ce qui se passe si j'utilisais un émetteur d'ondes qui, au lieu d'être un beau disque plan qui bouge ou une surface plane qui bouge, si cette surface qui émettait des ondes était elle-même rugueuse et avait une structure aléatoire. Et donc j'ai commencé, dans un rêve, j'ai rêvé que ce qu'on appelle un transducteur ultrasonore se cassait en des tas de petits morceaux et que je les recollais les uns les autres pour voir ce que devenait ce nouveau transducteur qui émettait des ultrasons. Et je me suis rendu compte que pour lutter contre le désordre, le mieux c'était de fabriquer un objet qui lui-même était désordonné. Et ça a commencé à me donner quelques pistes sur la façon de contrôler les ondes dans des milieux compliqués. Et puis, plus tard, quand je rédigeais ma thèse d'état sur une espèce de théorie générale de comment on fait des images avec des ondes, j'ai eu un petit déclic. C'est que finalement, voir un objet, alors qu'on ne le voit pas en le touchant, on le voit par les ondes qu'il émet, c'est comme si finalement toutes les ondes qu'on recevait, on les obligeait à revivre leur vie passée, et elles revenaient sur l'objet. Et donc cette opération de renversement du temps, je me suis dit que c'était la clé pour comprendre toutes les méthodes d'imagerie. Et j'ai réinterprété ce qu'on appelait l'holographie, qui est faire l'hologramme d'un objet. Une fois que vous avez cet hologramme, quand vous le rééclairez par de la lumière, vous avez l'impression de voir la personne comme étant du retournement temporel. Mais sauf que en optique, les ondes vont si vite que vous voyez pas le temps. Vous voyez pas que les ondes partent d'un endroit et arrivent à l'autre. Tout est instantané quasiment. Et donc en comprenant ça et en voyant que les circuits électroniques était suffisamment rapide, je me suis dit qu'on pouvait vraiment, pour les ondes acoustiques, faire une machine qui physiquement renverrait vers quelqu'un tout ce qu'il dit. Et une des premières machines, et la techno était prête. Et donc, si par exemple je parle dans cette pièce, s'il y a un mur à retournement temporel, si je me tais, tout ce que j'ai dit, toutes les ondes vont revenir exactement refaire vibrer mes cordes vocales en marche arrière. Alors si j'étais très méchant, si ce miroir à retournement temporel en plus amplifiait tout ce que j'ai dit, il l'envoyait beaucoup plus fort, mais je peux faire sauter mes cordes vocales. Pas très intéressant de faire ça. Mais c'est quand même intéressant parce que quand on comprend ça, on comprend comment dans une pièce de forme compliquée où les ondes rebondissent partout, on peut envoyer le son pour qu'il ne soit reçu que par une personne dans la pièce. Et tout ça, ça m'a travaillé pas mal. Et la plupart des idées sont venues soit pendant des rêves, parce que je cherchais à résoudre un problème, soit en faisant du ski, en étant tranquille sur une belle piste, soit sur les remontes de pente aussi. On a le temps de penser tranquille, et quand on a des choses qu'on cherche à résoudre et qui n'arrivent pas, brusquement ça se construit, et puis on dit tiens, ça y est, on a trouvé quelque chose. Mais ça nécessite finalement d'être chaque fois dans un état qui n'est pas l'état de travail habituel. Jamais j'ai eu une bonne idée pendant que j'étais devant mon bureau en train de travailler sur quelque chose. Il a fallu que ça mûrisse, et ça vient qu'à des moments... Et le plus spectaculaire pour moi, c'était dans les rêves, quoi. Brusquement, on se réveille, on se dit, tiens, ça y est, j'ai trouvé un truc. Et on se dit, il ne faut pas que je l'oublie. Et souvent, on l'oublie. Et on est vachement déçu après, et puis quand ça reste, après on peut en faire quelque chose.
Et c'est sans doute pas tout à fait une idée très concrète qui vient après les rêves, c'est plus une espèce de sentiment, d'intuition, quelque chose de flottant comme ça, où on se dit tiens, il faut vite que je le saisisse avant que ça ne m'échappe.
Ouais, quelque part... on se dit, tiens, tout ce qui traînait dans ma tête pour essayer de comprendre telle chose, brusquement, il y a eu un moment où j'ai compris tout le fil et comment faire pour ne pas le perdre. Et de temps en temps, on le perd. Et de temps en temps, on se réveille et là, on est bien réveillé et on se dit, ça y est, j'ai trouvé le truc. Et bon, ce que j'ai appelé à un moment les transducteurs à phase aléatoire qui étaient... quelque chose qui avait pas mal d'applications amusantes, c'est vraiment venu juste à la sortie du rêve. Et après, j'ai noté, et après, je suis allé proposer qu'on casse des beaux émetteurs du traçon en des tas de petits morceaux et qu'on les recolle, et on a fait la manip et ça a marché. Donc là, il y a eu des moments où... mais bon, mais par contre, je pense que la démarche nécessite l'aspect inventif. Il vient principalement quand on est en train de se reposer et que les idées tourniquent et clac. Bon, c'est pas désagréable ces moments où on s'est dit qu'on a brusquement compris bien quelque chose de compliqué.
Une noix, qu'y a-t-il à l'intérieur d'une noix? Qu'est-ce qu'on y voit quand elle est fermée? On y voit la nuit en rond et des plaines et des monts, des rivières et des vallons. On y voit toute une armée, des soldats bardés de fer qui joyeux partent pour la guerre et fuyant l'orage des bois. On voit les chevaux du roi près de la rivière. Une noix, qu'y a-t-il à l'intérieur d'une noix? Qu'est-ce qu'on y voit quand elle est fermée? On y voit mille soleils, tous à tes yeux bleus pareils. On y voit briller la mer et dans l'espace d'un éclair un voilier noir qui chavire. On y voit des écoliers qui dévorent leurs tabliers, des abbés à bicyclette, le 14 juillet en fête, et ta robe au vent du soir. On y voit des reposoirs qui s'apparentent. On n'a pas le temps d'y voir, on la croque et puis bonsoir. On n'a pas le temps d'y voir, on la croque et puis bonsoir, les découvertes. Une noix.
Cause commune. La voix des communs.
Donc en conclusion, si on fait du ski, on se met à rêver de transducteurs ultrasonores. Pas du tout, je voilà. Plaisante.
Ça peut arriver, mais il vaut mieux rêver à autre chose.
Je fais une confusion entre corrélation et causalité, voilà. Comme le font parfois certains journalistes en ce moment, surtout sur une période post-Covid. Mais non, nous ne la ferons pas. Mais bon, il faut rêver de transducteurs ultrasonores. Et ça arrive aussi quand on fait du ski. C'est un petit peu l'équivalent du marchepied de l'omnibus à Coutances, quoi. C'était un moment qui n'a rien à voir, et c'est le fait de faire une connexion entre deux choses qui n'ont aucun rapport qui permet cette espèce de regard. C'est quand même assez incroyable, parce que là on manipule un objet scientifique qui est quand même très 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 original, qui est très curieux. On n'est pas tout à fait, on est vraiment dans l'idée que on manipule l'onde en vue de lui faire un chemin inverse. J'essaie de le dire avec mes mots, mais pour moi-même, il faut que j'arrive à le conscientiser, c'est pas évident. Spontanément, j'ai envie de faire un parallèle avec le fond diffus cosmologique. J'ai envie de me dire, bah oui, en fait, on comprend le Big Bang parce que on relit, enfin, comme on lit un livre, l'onde à l'envers pour comprendre, en fait, cette explosion qui est le Big Bang dans lequel nous sommes toujours. Et en fait, en la lisant à l'envers, on comprend l'explosion. Sauf que là, c'est pas pareil. Parce que vous, ce que vous faites, ce que vous proposez de faire, c'est de refaire vivre l'onde. Ouais. Je triche un peu parce qu'on avait parlé au téléphone il y a quelques mois. J'avais déjà proposé. Ah, c'est comme le Big Bang, vous m'aviez dit non. C'est pour ça que. En fait, là, l'idée, c'est que. En fait, on referait un Big Bounce, c'est-à-dire qu'en fait, on referait l'explosion, une implosion qui survit sur elle-même, en quelque sorte.
L'équivalent d'un miroir à retournement temporel au niveau de l'univers. Ce serait passer du Big Bang au Big Crunch. Ça veut dire, on a un univers qui démarre à partir d'une toute petite zone de l'espace-temps qui s'étale et qui, au moment donné où il est devenu très très grand, si par un coup de baguette magique on lui dit hey, « Stop, arrête de grandir », repart dans l'autre sens, ce serait un univers qui reviendrait étape par étape pour redevenir... un tout petit univers et bon alors je vais pas trop délirer là-dessus, mais c'est vrai que après le Big Bang du Big Crunch ça fait partie d'un certain nombre de théories.
Oui, en
alors
plus
maintenant,
il nous manque des informations,
que la dynamique de l'univers soit invariante par renversement du temps. Ça voudrait dire que on peut faire un univers qui va dans un sens du temps et on peut en faire marcher un autre dans l'autre sens du temps. Et pour ça, il faut faire ce qu'on appelle modifier les conditions aux limites de l'univers. À un moment donné, il faut faire cette opération qui crée cette phase de changer la flèche du temps. Mais c'est peut-être le bon Dieu qui, au bord de l'univers, un jour, s'il est en dehors de l'univers, décide que l'univers qui croit, bon, clac, on lui dit, mais tu repars dans l'autre sens. Mais quand on parle de ça, y a l'idée du Big Crunch, en tout cas, c'est une idée qui existe, et des gens comme Hawking et d'autres ont parlé de ça. Et la question, c'est si l'univers revient en marche arrière, est-ce qu'il va refaire exactement tout en marche arrière, ou est-ce qu'il n'y aura pas des petits défauts qui feront que l'univers qui se déroule... dans l'autre sens du temps, ce ne sera pas exactement le même. Bon, ça, c'est des incertitudes, et puis personne ne sait. Pour le moment, la seule chose qu'on voit, c'est que l'univers qu'on observe est dans une phase d'expansion. Maintenant, est-ce que ça s'arrêtera ? On pensait que l'univers devait décélérer dans son expansion, et... l'observation du cosmos aujourd'hui montre que, au contraire, l'univers est en train de s'agrandir en accélérant l'agrandissement. Et ça, on ne comprend pas. Et c'est un concept qui s'appelle l'énergie noire qu'on a dû introduire pour expliquer pourquoi l'univers qui aurait dû s'arrêter de s'agrandir est plutôt en train de s'agrandir plus. Donc il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Mais malgré tout, quand nous on observe le fond cosmologique de l'univers, c'est pas exactement ça qu'on fait. Nous on observe l'univers tel qu'il était dans son passé. Parce que, comme les ondes de lumière pour arriver jusqu'à nous avancent à 300 000 km par seconde, le fond cosmologique de l'univers, on l'observe en fait tel qu'il était en gros il y a 13 milliards d'années, parce que c'est maintenant qu'on reçoit des informations. Et là, on joue avec le temps, mais ce n'est pas du renversement du temps.
C'est exactement où je voulais en venir. On lit la donnée.
On lit la donnée et donc on fait une image de ce qu'est l'univers il y a très longtemps. Et alors, quand moi je vous regarde, en fait, je vous vois tel que vous étiez il y a quelques milliardièmes de seconde. C'est-à-dire, j'ai l'impression que vous êtes là, mais vous êtes déjà peut-être mort. Et vous avez peut-être disparu, mais je vous vois parce que la lumière m'arrive juste sur ma rétine et claque, je vous vois. Mmh. Et ce problème de la distance qu'il faut pour que les ondes arrivent d'un objet vers un observateur, ça joue un rôle. Alors, c'est spectaculaire quand vous regardez le soleil. Quand vous voyez la lumière qui vient du soleil, elle a mis 8 minutes... pour venir du soleil.
Donc, toutes les 8 minutes, on peut se poser la question, est-ce que le soleil n'a pas disparu?
Si le soleil a été détruit, a disparu, maintenant, ben, je ne le saurai que dans 8 minutes, et il n'y a que dans 8 minutes que brusquement, je verrai, il n'y a plus de soleil. Et j'aurai une idée fausse de ce qu'est la réalité de ce que je vois. Ce que je vois n'est pas simultané à... et donc, tous ces aspects-là, ils sont très discutés dans la théorie de la relativité restreinte et générale sur la relativité du temps et sur la simultanéité. Mais ce dont je parle, c'est un peu différent. C'est une des propriétés magiques et de la mécanique quantique et des ondes, c'est l'invariance par renversement du temps, qui a l'air de dire que toute l'évolution de tous les univers faits de particules et d'ondes peuvent être imaginées se déroulant dans une chronologie inversée. C'est vrai pour les ondes et pour les particules. Mais faire un appareil qui retournerait temporellement toute la vie des particules, c'est très dur, parce qu'il faudrait observer toutes les particules avec une précision infinie et les renvoyer en marche arrière avec une précision infinie. Et malheureusement, quand on veut manipuler des particules, et quand il y en a beaucoup, on a un phénomène qui s'appelle le chaos, qui vous dit que la moindre erreur dans la manipulation de particules s'amplifie avec le temps. Mmh. Et donc, faire une machine à retournement temporel pour des milliards de particules, comme tous les atomes ou les molécules de notre corps, c'est une machine tellement dure à imaginer... Et où la moindre erreur dans la mesure et dans la réalisation de conditions initiales s'amplifie. Et donc, il y a très peu d'espoir qu'on fasse une machine qui vous permettrait de vous mettre dans une grotte spéciale. Vous êtes un bébé, vous grandissez, vous devenez de plus en plus grand. Et puis, à un moment donné, clac ! On dit que toutes les particules doivent exactement revivre leur vie passée et normalement, vous allez redevenir le petit bébé que vous étiez. Pour faire ça, là, il faut manipuler des particules. Et c'est beaucoup plus dur que de manipuler des ondes. Et juste une philosophie, il est beaucoup plus facile de faire ce qu'on veut à une onde qu'à beaucoup de particules. Et donc les ondes, elles ont un avantage à ce niveau-là. Voilà ce que je peux dire. Mais maintenant, ces idées du renversement du temps, dernièrement, les gens en mécanique quantique essayent aussi de renverser temporellement la fonction d'onde quantique. Il y a eu, sur tout ce qui se passe sur les ordinateurs quantiques, on a pas mal parlé dernièrement d'algorithmes d'ordinateurs quantiques qui peuvent faire du renversement du temps. Mais bon, on est loin de faire ça sur des objets... formé de beaucoup de particules, parce que autant faire un miroir à retournement temporel pour une onde, c'est facile, autant faire un miroir à retournement temporel pour un paquet de particules,
c'est infini,
c'est infiniment compliqué.
Bien sûr, bien sûr. Mais du coup, voilà, ça nous permet de rentrer un petit peu dans le dur et de vraiment comprendre la profondeur de cette matière à réflexion. Donc, on ne fait pas que lire les données, on essaye vraiment de provoquer l'onde à l'envers. Et si on raisonne à une échelle un peu plus petite, il ne s'agit pas de remonter le temps au sens où on se téléporterait dans le passé. Il s'agit de s'imaginer, par exemple, un verre au bord de la table que je nonchalamment je laisse tomber en le poussant de la main, qui explose au sol. On pourrait le reconstituer et le faire remonter jusqu'en haut de la table et se remettre neuf. Oui. Ce qui, la loi d'entropie, nous interdit finalement.
Mais c'est ça, quand on fait du renversement du temps, on peut faire ça, mais le verre, quand il reviendra neuf après le verre qui s'est brisé. C'est-à-dire que on peut recréer toute une scène temporelle plus tard en marche arrière. Mais je dis bien plus tard. Ça veut dire que on ne remonte pas le temps au sens est-ce que je peux faire un appareil qui me permet, moi, d'aller me retrouver au 8e siècle. Ça, c'est une machine à remonter le temps. L'appareil que nous on fait est différent. Il va faire que, à partir de maintenant, si je modifie tout mon environnement, je vais pouvoir faire que, au lieu de vieillir, je vais commencer à rajeunir, mais dans mon futur, je deviendrai ce que j'étais quand j'étais plus jeune. Mais c'est dans mon futur. Je ne sais pas remonter le temps pour aller dans mon passé. Par contre, je peux recréer dans le futur mon passé. Et ça, c'est une nuance très forte avec une machine qui vous permettrait d'aller vous retrouver. Par exemple, imaginez que j'ai 50 ans et que je décide de me retrouver tel que j'étais il y a 20 ans. Et imaginez que je décide de me tuer à ce moment-là. Mauvaise idée. Donc théoriquement, je ne devrais pas arrêter. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si je me tue, je ne peux plus exister à 50 ans. Et donc, par contre, ce que je peux faire, c'est à partir de 50 ans, prendre 20 ans ou 30 ans pour me retrouver tel que j'étais quand j'avais 20 ans. Mais je ne peux pas violer le retour sur le passé. Quoi, en tout cas, avec les idées que nous regardons, il y a des théories plus compliquées qui permettraient peut-être de vous retrouver dans le passé sans avoir à attendre d'avoir refait toutes les étapes de votre vie entre maintenant et votre passé.
Oui, et ce serait encore tout un autre champ.
Ouais, ça c'est un autre champ. Nous, c'est plus réaliste. C'est dire, bon, ben, on arrête le déroulement du temps et maintenant on le fait repartir dans l'autre sens, doucement, et puis on le voit qui. Et donc là, la causalité n'est pas mise en cause. Si on peut
dire. Oui, si on peut dire. Ouais, voilà. Donc, c'est exactement ce qu'on fait. Non pas sur le calcul rénal lui-même, mais sur les ondes que l'on propage vers le calcul.
Voilà.
Et que, voilà, qu'on récupère et qu'on renvoie, qui permet de cibler très exactement le calcul.
Et qui vient juste reformer la forme du calcul au moment où elle lui tape dessus.
C'est ce qui permet de le cibler précisément. Ouais. On fait revivre. Voilà. Alors, c'est, j'imagine, plus simple qu'un verre d'eau. Déjà, un verre d'eau, ça va être très complexe en soi.
Un verre d'eau, c'est compliqué, mais par contre, on a une très jolie manip qu'on a faite avec un chercheur de notre labo qui s'appelle Emmanuel Faure. C'est une petite manip dans une cuve d'eau où on jette un objet qui est un smiley en métal qui tombe dans une cuve d'eau et on voit une onde épouvantable qui part dans l'eau. Et puis, brusquement, on fait cette opération de retournement temporel qui est magique, qui consiste en fait à soulever brutalement la cuve d'eau, mais infiniment rapidement. Et on voit dans la cuve d'eau toutes les vagues revenir en marche arrière, et on voit brusquement se reformer le smiley dans l'eau. On a une superbe manip qu'on montre, qui impressionne énormément les gens, et qui montre que les ondes sont invariantes par renversement du temps. C'est une manip très spectaculaire. une espèce de petite piscine où on fait tomber un objet, mais il faut être capable de soulever la piscine brutalement. Parce que quand vous soulevez la piscine brutalement pendant un temps très bref, vous créez ce qu'on appelle une discontinuité temporelle pour les ondes, et ça crée et ça oblige brusquement l'onde à revivre sa vie passée. Et donc, on a des petites manips un peu dingues, mais c'est pas la manip du verre d'eau qui tombe, parce que le verre d'eau, il faudrait que chacune des molécules du verre d'eau, on la remette en place. Moi, je parle que des vagues qui ont été créées par la chute d'un objet dans de l'eau. Et c'est spectaculaire. On a fait ça aussi avec une petite tour Eiffel. On fait tomber une tour Eiffel qui doit faire 5 ou 6 cm dans l'eau, et donc elle grave sur l'eau une forme, et il y a une onde qui quitte, qu'on voit, c'est des vagues, et puis brusquement, hop, on soulève la cuve pendant un instant très très bref, et on voit toutes ces vagues qui reviennent en marche arrière, et on voit la tour Eiffel apparaître. Alors, c'est pas la tour Eiffel en métal qui revient, mais on voit l'objet tour Eiffel, on voit la vague qui a la forme de la tour Eiffel. Et ça montre que c'est un variant, c'est super puissante. Les physiciens aiment beaucoup ce qui s'appelle les symétries en physique. Il y a la symétrie par rapport à la sphère, la symétrie par rapport au plan, et puis il y a la symétrie par rapport au renversement du temps. Et cette symétrie, elle existe en physique. Et quand on l'exploite, on fait des trucs très rigolos.
Les vidéos existent sur Internet, elles sont accessibles.
Ah oui, les vidéos existent sur Internet.
Dans ce cas-là, on peut proposer aux auditeurs d'aller...
Je vous donnerai la vidéo qui doit être sur le site d'Emmanuel Faure, qui est la vidéo du smiley ou de la tour Eiffel.
Nous la mettrons sur la fiche de l'épisode sur le site causecommune.fm.
C'est amusant, et on voit là que c'est pas du flan.
Oui, c'est réel, quoi, comme vous dites souvent, quoi. C'est observable.
C'est observable dans la vraie vie, quoi. C'est pas que de la théorie.
Oui, c'est impressionnant. Alors, des fois, on a des idées comme ça qui nous viennent, qui fonctionnent. Donc, la tour Eiffel dans les vagues, ça a marché. Et la poterie, du coup?
Ah, alors la poterie, ça, c'est une autre histoire. Ben, c'est comme ça que j'ai connu Jean Charpak.
Alors, prix Nobel de physique 1992, si ma mémoire est bonne.
Oui, et d'ailleurs, c'est la fondation Charpak qui promeut l'esprit des sciences. Et j'étais devenu très ami avec Jean Charpak, qui n'était pas encore prix Nobel. Quand je commençais à travailler sur les miroirs à retournement temporel pour les ondes acoustiques, il était venu me voir dans les années, ça devait être en 88, et il était venu me voir en me disant qu'il s'intéressait à la chose suivante: est-ce que par hasard du son n'aurait pas été gravé par inadvertance dans des poteries, et est-ce qu'on ne pourrait pas retrouver des sons anciens? Et comme moi je travaillais sur le renversement du temps des ondes acoustiques, ça fitait très bien l'idée qui l'intéressait de savoir si par inadvertance il n'y aurait pas eu des... Et donc quand je est venu, on a déliré tous les deux en se disant: est-ce que par hasard il n'y aurait pas eu des potiers qui, au moment où ils faisaient, où ils fabriquaient avec un tour leur poterie, s'ils avaient mis une petite pointe pour dessiner des sillons dans la poterie, si en même temps il parlait, ça envoie des ondes acoustiques, et donc ça envoie des vibrations qui vont faire vibrer la pointe. Et est-ce que par hasard on n'aurait pas eu des enregistrements comme des micro-sillons qui auraient contenu la modulation du son qui aurait été enregistré? Et Georges est venu, m'a parlé de cette idée. On a été tous les deux au Louvre fouiller toutes les poteries qui existaient et tout, et on a trouvé quelques objets qui ressembleraient à des vieux disques faits en bitume qui dataient de 4000 ans, qui venaient de Mésopotamie, et qui c'était les scribes qui, lorsque ils tuaient un animal, ils faisaient le dessin des viscères et des intestins de l'animal. Et ce dessin leur permettait de prédire si tel roi allait gagner la guerre ou pas la gagner. Et donc, ça ressemblait énormément à des micro-sillons. Et on s'est dit, est-ce que par hasard, pendant qu'ils dessinaient leur dessin, est-ce qu'ils parlaient pas? Et s'ils parlaient, est-ce que cachés au fond des sillons dans ces objets en bitume, est-ce qu'il n'y aurait pas du son ? Et donc, on a beaucoup déliré. On a réfléchi à faire des systèmes avec des lasers pour pouvoir voir... pour fouiller le fond des sillons. On n'a pas été plus loin, mais on s'est bien amusé en tout cas.
Alors, on parle de Georges Charpak. Précisons que vous êtes un des membres fondateurs de la Fondation. La Fondation Charpak, l'esprit des sciences, s'engage pour développer des activités et soutenir des projets permettant de renforcer l'esprit des sciences dans la gouvernance et la culture de nos sociétés. Et c'est à ce titre que la Fondation soutient l'émission Science et Conscience. Alors, Yves Charpak, tu présides la Fondation Charpak et tu es venu nous parler de rêves. Bonjour Yves.
Bonjour Stéphane.
Alors, la science doit-elle faire rêver ? Faut-il stimuler les sens et l'imaginaire pour amener tout un chacun à entrer dans le chemin plus ardu des méandres de la création de la connaissance scientifique ?
Les chercheurs le savent bien. Ce qui les fait avancer, c'est une excitation, un plaisir anticipé de la compréhension d'une énigme ou la surprise de voir apparaître des résultats qui font avancer la connaissance, la compréhension du monde. Y compris aussi, d'ailleurs, en réfutant éventuellement des idées circulantes bien établies. Sans le plaisir et l'imaginaire qui les fait vibrer, la recherche scientifique serait sûrement moins productive.
Ce plaisir, cette émotion que vous dites essentielle pour les chercheurs professionnels, est-ce qu'il peut être partagé avec des néophytes, des non-chercheurs, pour leur donner l'envie de comprendre mieux la place de la science dans nos vies de tous les jours ?
Clairement, la capacité à faire rêver, à enchanter, existe pour les citoyens qui, lecteurs d'articles ou de livres, pour les spectateurs et auditeurs de podcasts, de vidéos, d'émissions de vulgarisation scientifique et autres outils de la médiation scientifique, de la diffusion d'une culture scientifique pour tous. Certaines expositions scientifiques sont même des chefs-d'œuvre pour la vue et les sens. Mais le passage de ce plaisir qui est un peu passif de simple spectateur à la volonté de faire un bout de chemin pour comprendre mieux les idées, les outils de travail, les méthodes de la production scientifique demande sans doute un engagement plus intense, une forme de travail.
Cela veut-il dire que le plaisir ne fait plus alors partie de ce chemin de citoyens intéressés par plus de science dans leur vie quotidienne ?
Alors sûrement pas. Et c'est une clé sûrement de l'envie d'aller plus loin. Mais le type de plaisir attaché à une compréhension plus approfondie de ce que j'appellerais l'arrière-cuisine de la recherche, la circulation des idées scientifiques et les faire vivre, c'est certainement d'une autre nature que les sens et émotions immédiates à la lecture d'une communication bien faite sur une découverte biologique ou bien une image saisissante prise d'une navette spatiale ou le cœur d'une collision de particules élémentaires dans un centre de physique. Pour ça, il faut sûrement que les chercheurs se lâchent un peu, et pas pour jouer les gourous. Il s'agit de partager aussi plus largement leurs émotions, leurs modes de pensée, de donner envie de les accompagner dans leurs aventures, de comprendre comment ils vivent ces aventures. Une forme de capitalisation du contexte de la réalisation de leurs recherches, de leurs difficultés, de leurs peines et de leurs joies, de leurs grands plaisirs, plus que la simple description de leurs résultats.
Merci beaucoup Yves Charpak, nous te retrouvons le mois prochain pour une nouvelle question de la Fondation. Et merci Mathias Fink.
Mais c'était un plaisir, merci.
Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés sur Cause Commune 93.fm ou sur leur plateforme de podcast préférée. La meilleure façon de nous soutenir, c'est de partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Rendez-vous le mois prochain, mercredi 22h, pour le prochain Science et Conscience.
Cause commune. La voix des communs.